soigner pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne vous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors avant de développer, Jean restitue le contexte et nous place dans une perspective. Cette perspective, c'est le retour de Jésus. Souvenez-vous, Jean avait commencé cet épître en parlant comment Jésus était apparu une première fois dans le monde. Désormais, il se place dans la perspective de son retour avec une préoccupation particulière, qu'à l'occasion de ce retour, nous ayons de l'assurance, que nous n'éprouvions pas de la honte. Nous projeter sur cet instant, sur nous-mêmes, sur nos réactions à cet instant, semble être un point utile à Jean, et d'ailleurs à Alain, il y a deux semaines, pour insister sur la question de demeurer en Christ, et demeurer en Christ aujourd'hui. Car en fait, l'assurance dont nous aurons besoin, le moment venu lors du retour de Jésus, se construit aujourd'hui en demeurant en Christ jour après jour. Et il rejoint en cela l'enseignement de Jésus dans la parabole des 10 jeunes filles avec leur lampe à huile. C'est en nous préparant aujourd'hui que nous construisons l'assurance que nous éprouverons demain. Et c'est en demeurant en lui, en Dieu aujourd'hui, que nous éloignons de nous la honte d'être désemparés, démunis, quand nous le verrons face à face. L'expression « né de lui » au verset 28 introduit logiquement celle d'enfant de Dieu au début du chapitre 3. Enfant de Dieu, nous le sommes, parce que né de lui, et non par nature, mais par grâce, et quoi que les hommes puissent dire ou penser. En tant qu'enfant de Dieu, exercer à discerner la justice de Dieu, nous sommes en mesure de discerner mutuellement la filiation qui nous est commune. Jean s'extasie sur un point particulier. Notre titre d'enfant de Dieu, et plus qu'un titre, c'est un fait, découle de l'amour étonnant du Père envers nous. Donc, je vous assure qu'on ne s'est pas concerté avec l'équipe de louanges qui a chanté ce matin un amour étonnant. Mais voilà. De quel amour signifie étymologiquement de quel pays? C'est comme si l'amour du Père était tellement étranger au monde que Jean se demande bien de quel pays il peut provenir. Quel amour étonnant, on l'a chanté. Surprenant, décoiffant, comme on dirait aujourd'hui. Et Jean admet ensuite en toute franchise que tout apôtre qu'il est, il ne connaît pas le caractère précis de notre héritage, mais il nous exhorte à l'espérance, en accordant à cette espérance une vertu qui a de quoi nous intriguer. Celui qui la posséderait, cette espérance, se purifierait comme le Christ lui-même est pur. C'est ce que nous lisons au verset 3. Bizarre, hein ? Bizarre. Devenir pur comme le Christ lui-même est pur, c'est logique puisque nous serons semblables à lui. Mais en quoi l'héritage promis par Dieu, l'espérance en un héritage, en l'héritage promis par Dieu, nous purifierait-elle ? Peut-être qu'en fait, il ne faut pas chercher bien loin. L'espérance, c'est le carburant qui nous permet de demeurer en Dieu, pour tenir sur la distance. Et on sait que quand on demeure en Dieu, le processus de purification s'engage naturellement, parce que nos valeurs changent, parce que nous ne sommes plus enclins à résister à la tentation, parce que nous marchons sur un chemin de sanctification. Et déjà, par le sang de Christ, nous sommes purifiés de la culpabilité du péché, mais nous avons un rôle à jouer en nous purifiant nous-mêmes de son pouvoir sur nous. Nous aimons à dire que nous avons trouvé la liberté en Christ et la victoire. Alors, allons-nous nous laisser dominer par ce qui lui déplaît? Allons-nous rester les éternels vaincus de nos désirs et de nos passions? Nos plus belles victoires sont celles que nous remportons sur nous-mêmes et en particulier sur notre péché. Et donc voilà, bien armés comme nous le sommes, nous pouvons réenchaîner sur le premier critère. Donc je prends à partir du verset 4. Tous ceux qui pratiquent le péché violent la loi, puisque le péché, c'est la violation de la loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour enlever nos péchés. Il n'y a pas en lui de péché en lui. Ceux qui demeurent en lui ne pêchent pas. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare, celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et qu'il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Le péché, c'est la violation de la loi. C'est une définition du péché, ce n'est pas la seule, mais c'est probablement la plus claire et la plus explicite de toute la Bible. Pécher ou violer la loi, c'est la même chose. Nous parlons bien sûr de la loi divine, mais nous n'excluons pas forcément comme péché la violation de la loi civile, dès lors qu'elle ne s'oppose pas à la première. Mais suivre un passage vraiment difficile. Verset 6. Ceux qui demeurent en lui, en Jésus, ne pêchent pas. Verset 7. Celui qui pratique la justice est juste comme Christ lui-même est juste. Verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Et comme si ça ne suffisait pas, ces déclarations sont renforcées par leur symétrique. Verset 6. Si quelqu'un pêche, il ne l'a pas vu, Jésus. Il ne l'a pas connu. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable. Verset 10, celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Et pour clôturer le tout, une bonne déclaration couperet comme on les aime bien, verset 10, c'est comme ça qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Facile. Ben oui, finalement, c'est tout simple. Donc on résume, le chrétien ne pêche pas. Ou pas depuis, en tout cas, depuis qu'il est né de Dieu. Et si quelqu'un pêche, ben, il n'est pas né de Dieu, il n'est pas chrétien. Vous avez saisi que ça pose un petit problème. Déjà, Jean se contredit lui-même, si c'est textuellement qu'on doit interpréter cela. Si nous revenons, par exemple, au chapitre 1 et 2, nous lisons: si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Jean parle là manifestement de nos péchés quotidiens, pas exclusivement des péchés d'avant être né de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, autant l'idée que le croyant s'engage dès sa nouvelle naissance en Christ dans la lutte contre le péché est une idée vraiment répandue, autant l'idée que toute forme de péché aurait disparu en lui, voire remettrait en cause sa filiation au Père, est absente. Jésus lui-même, le seul qui a été à la hauteur du défi de ne pas pécher, n'exclut pas la possibilité pour un disciple, même revêtu du Saint-Esprit, de pécher. Il n'y a pas de texte vraiment explicite pour appuyer ceci, mais notre Père, pardonne-nous nos offenses. Ou encore quand il conseille à Pierre de pardonner 70 fois son frère coupable envers lui, n'est-ce pas l'image du pardon renouvelé de Dieu à notre égard? Et puis surtout, je pense à ce verset du psaume 130, « Si tu tenais compte de toutes nos fautes, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Car la réalité est là. Nous ne trouvons personne qui ne pèche plus, qui ne pèche plus après sa conversion. Même les apôtres sont sujets à des tiraillements entre eux, des lâchetés, des emportements, et pas seulement avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que, faute de croyants, à la hauteur du défi de ne plus pécher, le sacrifice de Jésus ne déboucherait sur le salut de personne? Alors, ce passage a fait couler beaucoup d'encre parmi les commentateurs, et la clé se trouve probablement dans l'expression qui est traduite par « pratiquer le péché », qui revient plusieurs fois, mais pas à chaque fois, mais qu'on peut quand même extrapoler, je pense, sur chaque occurrence. Et mieux qu'un long argumentaire, j'ai noté cette métaphore d'un commentateur qui résume bien, à mon avis, qui explique bien le sujet. Le chrétien peut tomber dans le péché, mais il n'y marchera pas. Et voilà ce qui me semble être le sens de ce passage. Si le chrétien est conscient de ses faiblesses et impressionné même par le défi qu'elle lui lance, il ne s'y complaît pas, il ne s'en délecte pas. Et c'est par là, peut-être, que c'est là que la parole du psaume « Fais de l'Éternel tes délices » donne le contraste et prend tout son sens. Le chrétien a conscience du côté éphémère et trompeur du plaisir produit par ses péchés. Il ne revient pas sur leurs souvenirs avec satisfaction en se disant « Je me suis bien amusé ». Au contraire, il éprouve du regret et ne retrouve la paix qu'en se repentant humblement devant Dieu, comme Jean l'a dit lui-même, et nous l'avons lu au début de sa lettre. Et il est aussi intéressant de noter au cœur de ce discours l'emploi du mot « semence » au verset 9. Ce mot porte le sens de ce qui est en germe, du potentiel de croissance que Dieu met en nous, mais qui n'a pas atteint son plein développement. Les progrès que nous ferons jour après jour seront un marqueur de cette semence et de sa croissance. Et la mention d'une semence de Dieu introduit une idée de progrès, de progressivité, de continuité et de patience qui contraste avec le ton très tranché de cet exposé. Alors, ton très tranché, on peut se poser la question, pourquoi ce ton? Pourquoi Jean adopte-t-il ce ton si tranché? Il s'adresse à des frères tout de même. Et il a déjà dit au chapitre 2, loin de lui l'idée de les considérer autrement que comme des frères. Alors il nous faut rappeler le contexte, on l'a déjà un peu évoqué. Les églises sont à un tournant à cette fin de premier siècle. Outre la persécution qui agit, ça et là, de l'extérieur, une pression intérieure se développe avec l'émergence de doctrines déviantes, on en a parlé. Il semblerait que certains, tout en se disant disciples de Jésus, comme les décrit Paul, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, ces personnes échafaudent des compromis doctrinaux qui rejettent les critères moraux de la foi chrétienne. Donc il était urgent pour Jean de remettre les pendules à l'heure. Il ne s'agit pas ici d'un traité théologique systématique, Mais il est vrai que parfois nous avons besoin, nous sommes ainsi faits, que nous avons besoin de paroles chocs comme celle-ci, quand d'autres circonstances on qualifierait de jugement à l'emporte-pièce. Un peu comme un enfant peut avoir besoin d'une correction. C'est désagréable, mais ce qu'il en retire pour le reste de sa vie est un bienfait sans commune mesure avec ce que Paul appelle un sujet de tristesse au premier abord. Un parent aimant corrige son enfant avant tout pour que son enfant ne prenne pas des habitudes qui en feraient plus tard un être inadapté en société ou détesté de tous. Jean fait ici mention de nouveau de la première venue de Jésus et il en rappelle le but. Verset 5, Jean est apparu pour enlever nos péchés, mais aussi, verset 8, pour détruire les œuvres du diable. Le diable, nous dit Jean, pêche dès le commencement. En quelque sorte, c'est lui qui a inventé le péché. L'expression « dès le commencement » doit être entendue non comme le commencement de son existence, il n'a pas été créé pécheur, mais de sa déchéance. Un commentateur a écrit « Il est le pécheur originel et ce qu'il est devenu, il l'est encore. » Et donc, pécher, c'est faire comme le diable. Il s'est engagé dans une lutte contre Dieu. Pécher, c'est faire l'œuvre du diable, en quelque sorte s'engager à ses côtés dans sa lutte contre Dieu. Et en poussant la logique jusqu'au bout, et c'est ce que fait Jean, pécher, c'est se ranger du côté du diable. D'où ces expressions très binaires, enfant de Dieu, enfant du diable. On prend alors aisément le côté anormal et contre nature du péché dans notre vie de croyant, de chrétien, même si on le sait inévitable, il représente une forme de trahison et ne peut être d'une part que confessé et d'autre part combattu. On résume peut-être avec cette phrase, le chrétien peut tomber dans le péché, mais il n'y marchera pas. Je relis verset 10. C'est à cela qu'on reconnaît les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Alors vous admirerez la prestance de Jean pour basculer sur le deuxième critère, hein, l'amour avec l'amour entre les frères. Et donc nous passons sur le deuxième critère, l'amour pour les frères, à partir du verset 11. En effet, le message qui vous a été annoncé et que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. N'imitons pas Caïn. Il était du mal et il a tué son frère. Et pourquoi l'a-t-il tué ? Parce que sa manière d'agir était mauvaise et que celle de son frère était juste. Ne vous étonnez pas, mes frères et sœurs, si le monde vous déteste. Quant à nous, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. Tout homme qui déteste son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un possède les biens de ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en acte et avec vérité. Par là, nous saurons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Et voici quel est son commandement, c'est que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres comme il nous l'a ordonné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et si nous reconnaissons qu'il demeure en, et nous reconnaissons qu'il demeure en nous, à l'esprit qu'il nous a donné. Jean débute cet exposé sur l'amour pour les frères avec l'exemple de Caïn. On peut faire mieux. Hein. Caïn, qui avait tué son frère Abel, pour une forme de jalousie assez curieuse. Non, il n'est pas jaloux des dons supérieurs de son frère, mais il s'irrite de la justice supérieure de son frère. Et le désir meurtrier des prêtres juifs à l'égard de Jésus procède du même principe. Ne pas supporter d'être confronté à une justice meilleure que la sienne. Il faut trouver une faille. Évidemment, en le comparant, Jésus à eux sur des points sur lesquels ils s'estiment irréprochables, eux. Le respect scrupuleux du sabbat, le lavage des mains avant de passer à table, avant le repas, ne pas adresser la parole aux païens et une multitude d'autres choses. Ça, juger les autres sur la seule base de nos propres valeurs, c'est une tentation très subtile qui nous concerne tous. Mais l'exemple que prend Jean avec Abel tué, et qui est valable non seulement pour Jésus, mais aussi pour Étienne, pour l'apôtre Paul, pour l'apôtre Jacques, puis pour Paul, et de nombreux autres croyants anonymes. Paul n'a pas été tué, mais sa tête a été mise à prix. Et de nombreux autres croyants anonymes, cet exemple met en exergue le côté meurtrier de la haine de Caïn envers son frère. Son frère de sang. Le premier meurtre de l'humanité intervient dans la première famille. Ce que Jean ne dit pas, mais qu'on peut déduire des lignes précédentes, c'est que le fait de s'être laissé dominer par la haine a conduit Caïn dans cette spirale meurtrière. Et il s'est ainsi rangé du côté du meurtrier et du destructeur par excellence, que vous aurez reconnu, le diable. En principe, c'est le juste qui devrait être en mesure de juger et de sanctionner le coupable. Mais non, là, c'est l'inverse. C'est précisément parce que sa manière d'agir était mauvaise et que celle de Caïn, de son frère, était juste, que Caïn a tué Abel. C'est paradoxal, tout de même. Et c'est parce que leur cœur était mauvais et que celui de Jésus était pur que les prêtres juifs ont réclamé sa mort. Et vraiment, il y a quelque chose d'insensé dans cet état de fait. Si nous sommes capables de haïr un frère parce qu'il est plus droit, plus juste que nous, comment pourrons-nous aimer Dieu dans toute sa justice, dans toute sa sainteté? Nous l'aurions, même la sainteté, la parfaite justice de Dieu, amen, alléluia, mais la part de sainteté qui se manifesterait chez notre frère nous irriterait. Et c'est là tout le paradoxe développé par Jean. Quand nous haïssons un frère, une sœur, ça parle de manière beaucoup plus alarmante de nous que de ce frère ou de cette sœur. Et quand nous nous laissons dominer par la haine, nous emboîtons le pas à Caïn sur ce chemin qui l'a conduit au meurtre. Nous reconnaissons au passage la technique de l'amplification que j'ai évoquée au début, employée par Jean, en utilisant des termes de plus en plus forts. Auparavant, il avait dit que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Maintenant, il en parle comme un meurtrier. L'amplification par des termes de plus en plus forts. Et à l'opposé, Jean nous décrit ce en quoi consiste l'amour pour les frères et sœurs. Il est à l'image de l'amour du Christ qui a donné sa vie pour nous. L'amour véritable ne se révèle pas uniquement dans le sacrifice ultime, mais dans tous les plus petits dons. Peu d'entre nous sont appelés à offrir leur vie physique dans un acte héroïque, mais nous avons tous constamment l'occasion de partager nos richesses avec ceux qui sont dans le besoin. C'est l'exemple que j'en donne ici, mais on en trouverait une foule d'autres. lorsqu'un moniteur d'école du dimanche sacrifie un beau samedi après-midi chaud et ensoleillé pour préparer la leçon du lendemain matin, il accomplit un acte d'amour envers ses frères, les enfants et les parents de son assemblée. Idem, lorsqu'un membre de l'équipe de ménage vient nettoyer les locaux après une dure, longue semaine de travail. On ne va pas multiplier les exemples, ils sont légions, mais nous pouvons entrevoir les innombrables occasions qui nous sont données d'accomplir des actes d'amour envers nos frères, qui soient à l'image de l'amour de Jésus pour nous. Nous remarquons dans ce passage que Jean alterne le singulier, le pluriel, évoquant tantôt les frères et sœurs et tantôt son frère. Ce serait anecdotique, juste peut-être la possibilité de ne pas trop tomber dans la répétitivité, mais si on ne révélait pas un détail particulier. Le pluriel est utilisé à chaque fois qu'il est question d'aimer, aimer les frères et sœurs. À l'opposé, quand il est question de ne pas aimer, c'est-à-dire de refuser l'amour que nous pourrions donner en telle ou telle occasion, alors c'est le singulier qui est employé. Tout homme qui déteste son frère voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur. C'est qu'en fait, on ne déteste jamais tous les frères et sœurs en même temps. Ce serait bien trop évident, trop facile à détecter. Et on réaliserait tout de suite que c'est nous qui déraillons. Le diable est bien plus subtil en pointant du doigt une personne en particulier et une personne à la fois pour concentrer sur elle toute l'animosité qu'elle nous inspire. Je cite ici Louis. Il est plus facile d'être enthousiasmé pour l'humanité avec un grand H que d'aimer individuellement des hommes et des femmes, en particulier ceux qui sont inintéressants, exaspérants, dépravés ou peu attirants d'une manière ou d'une autre. Aimer tout le monde en général peut être une excuse pour n'aimer personne en particulier. La question se pose aussi de savoir où Jean place la limite de la fraternité. Nous, frères et sœurs en Christ, ici rassemblés, ou nos frères et sœurs en humanité autour de nous, et peut-être parmi nous. Tout le sens du livre va dans le sens de la première interprétation. Cependant, la première interprétation, c'est-à-dire les frères et sœurs en Christ. Cependant, ce n'est pas parce qu'ils se limitent à évoquer ici les frères et sœurs en Christ, qu'ils limitent à eux seuls les manifestations d'amour. Aimer ses frères et sœurs en Christ ne signifie pas pour autant détester nos frères en humanité. Et objectivement, un acte découlant d'un manque d'amour envers un non-croyant est bien plus grave et bien plus lourd de conséquences envers un croyant auprès duquel je peux venir me repentir avec une grande simplicité, qui est censé me pardonner, m'accorder son pardon. Alors qu'envers un non-croyant, c'est peut-être mettre un obstacle sur son parcours vers Dieu, alors que nous sommes censés l'accompagner vers Dieu dans ce parcours. Je pense au chant qu'on chantait tout à l'heure, nous vous annonçons l'amour de Jésus, mais est-ce que notre amour accompagne cette annonce? Cependant, Jésus dit explicitement que c'est à l'amour que nous nous portons entre frères que tous verront que nous sommes ses disciples. Et c'est donc par là qu'il faut commencer. En vertu du principe de Louis évoqué précédemment, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Le témoignage d'une fraternité qui se déchire publiquement, parce que c'est bien ce que nous sommes, n'est-ce pas, une fraternité, un espace ouvert au public, c'est un désastre qui n'attire que dédain et mépris, parce que cette fraternité se déchire. Les familles de ce genre, dans les quartiers, dans les villages, sont l'opprobre de tout le monde. Caïn qui tue son frère de sang. Quelle honte pour toute la famille. Mais nos frères et sœurs en Christ sont aussi nos frères de sang, frères du sang de Christ. Et l'Église est un formidable terrain d'apprentissage, d'application de l'amour du Christ. Et je serais bien étonné si une part significative de cet amour étonnant et débordant ne rejaillissait pas sur la fraternité humaine de tout notre entourage. Jean conclut brièvement son discours sur les deux sujets. Au verset 24, à partir du verset 22, les deux sujets, l'obéissance au commandement de Dieu et l'amour pour les frères, en les citant une dernière fois, enfin une dernière fois pour le moment, parce que nous sommes dans une spirale, on va y revenir, et en les rassemblant au verset 24, sous la condition nécessaire pour l'un comme pour l'autre de demeurer en Dieu. Mais avant cela, il fait un drôle d'aparté sur cette histoire de cœur qui nous condamne ou pas. Je reprends le verset 20. En effet, même si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Au verset 19, il parle de rassurer nos cœurs. On a l'impression, une fois de plus, qu'après avoir traité de sujets difficiles et sujets propres à nous remettre en question, Jean cherche à rassurer ses lecteurs sur leur situation actuelle. Mais que signifie cette histoire de cœur qui nous condamne? Que signifie ce passage? On dirait une sorte de procès avec à l'accusation notre cœur, à la défense nous-mêmes et Dieu comme juge. Mais il se fait tard. Ce sujet est vaste et nous le reprendrons la prochaine fois.